vous l'avez bien connu. Vous l'avez bien connu, une émission sans contrainte ni personne, vous l'avez bien connu, proposée par Ambroise Perrin.
Épisode numéro 119. Les mystiques rhénans, Rémy Valero. Chers amis, bonjour. Chers amis strasbourgeois, soyez prudents au volant. Dieu vous garde d'un accident. Boulevard Tolère vers l'Orangerie. Et savez-vous qui était Jean Tolère ? Il était le disciple strasbourgeois de Maître Eckhart, le docteur illuminé. Jean Tolère est né vers l'an 1300 à Strasbourg, un théologien mystique et prédicateur alsacien. Et Maître Eckhart, qui semble ne pas avoir une rue à son nom à Strasbourg, est né en 1260 dans le Saint-Empire romain germanique. Il fut prieur à Erfurt, au couvent dominicain, enseignant à Paris, puis vicaire à Strasbourg, victime de l'Inquisition, et il meurt au cours d'un procès à Avignon. Mais surtout, c'est un grand théologien dont l'enseignement spirituel est formulé à partir, je cite, d'une « invitation au détachement de tout ce qui n'est pas Dieu ». Notre invité aujourd'hui, dans, vous l'avez bien connu sur Radio Judaïka Strasbourg, est quelqu'un proche de Dieu. Alors, c'est une formule, hein. Vous êtes quelqu'un qui est sur le chemin d'une recherche spirituelle. Bonjour, frère Rémy Valero.
Bonjour, Ambroise Perrin.
Vous êtes dominicain dans un couvent à Lille, mais vous êtes aussi un peu strasbourgeois. Alors là, nous sommes ensemble au téléphone. On vous connaît pour vos livres sur Jean Tolère et Maître Eckhart. Vous enseignez à la fac et vous donnez des conférences sur les mystiques rhénans à Wissembourg, par exemple. Alors, de suite, une question peut-être un peu provocante. Est-ce que cela intéresse encore beaucoup de gens en 2025, les théologiens des 13e et 14e siècles, et en quoi cette connaissance peut être importante pour nous, pauvres citoyens?
Cette pensée peut intéresser des gens du XXIe siècle, comme elle a suscité l'intérêt des hommes et des femmes du XIVe siècle, du XVe, du XVIe, XVIIe, XVIIIe, XIXe et XXe siècle, des lecteurs du mystique rhénan qui, grâce à cette spiritualité, se demeuraient des vivants dans un monde où tout se dérobait autour d'eux, où tout s'écroulait. Effectivement, les mystiques rhénans nous apprennent à trouver un fond solide au fond de nous-mêmes quand tout s'écroule autour de nous.
Alors, qui sont ces mystiques rhénans? Est-ce qu'ils sont tous connus?
On appelle mystiques rhénans donc ces trois frères dominicains, théologiens, mais principalement hommes proches du peuple, que sont Maître Eckhart et ses deux disciples Jean Tolère et Henri Suzeau.
Voilà.
Maître Eckhart, comme vous l'avez dit, est né en 1265, il est mort vers 1328. Jean Tolère est né et mort à Strasbourg, il est né en 1300 et mort en 1361, très exactement le 16 juin 1361, puisque l'on conserve sa dalle funéraire sur le site de l'ancien couvent, aujourd'hui l'église du Temple Neuf. Et Henri Suzeau est né en 1285 et mort en 1366. Nous sommes au cœur du 14e siècle, le siècle de la peste noire, un siècle particulièrement difficile où cette parole de Maître Eckhart et de ses disciples ont été une lumière pour bien des hommes et des femmes de ce temps.
Alors comment est-ce que l'on a tous ces détails, ou comment ces textes se sont-ils transmis? Parce qu'à l'époque, c'était quand même... il n'y avait pas de livre. Enfin, comment est-ce que l'on connaît? Alors, on écrivait à la main, mais comment peut-on être aussi précis sur une période aussi floue?
On est loin d'être dans une période floue. Ce qu'on appelle souvent le Moyen-Âge est un temps de véritable lumière. où l'art du manuscrit n'a rien à envier à l'Internet d'aujourd'hui dans la diffusion qu'il opère, notamment par l'écrit lui-même. Vous avez convoqué les scribes des scriptoria, ou scriptorium au singulier, mais aussi l'art du chant, puisque en réalité, les auditeurs de Maître Eckhart et de Jean Teulère, qui sont des femmes, des monastères ou des béguines qui vivent dans des béguinages, pratiquent un chant qui leur permet de véhiculer la pensée au gré de la poésie qui retranscrit la pensée de ces hommes théologiens. Et cette manière de procéder, immatérielle avant la lettre, n'a rien à envier à l'Internet du XXIe siècle.
Oui, mais alors, j'allais vous dire, l'Internet, Facebook, c'est tout un chacun, c'est tout le monde. Est-ce que cette pensée était diffusée dans les églises par les prêtres? Est-ce que tout le monde y avait accès ou c'était seulement une élite de la population?
Alors, soyons clairs, effectivement, le monde du livre et le monde de la pensée se résorbe sur les villes et non pas sur l'étendue d'un territoire donné, que ce soit dans le Saint-Empire germanique ou dans le Royaume de France. Ce n'est pas au fin fond des villages qu'on entend Maître Eckhart ou que sa parole est diffusée. Mmh. C'est dans les villes, les cités, qui, soit dit en passant, apparaissent en Europe au XIIIe siècle. Jusqu'au XIIe siècle, vous n'avez pas de grandes villes en Europe. Elles sont toutes en Orient. C'est Bagdad, Al-Qaïra alias Le Caire, Damas. Des villes comme Paris, Cologne, Londres sont de gros bourgs avant qu'ils n'explosent et deviennent effectivement au gré de l'essor citadin de grandes cités qui sont des lieux de pensée avec notamment la naissance de l'université.
Mais qui est quand même, motivé et dirigé par des gens qui sont des ecclésiastiques.
Certes, mais quand j'ai cité les moniales et les béguines en particulier, qui sont des femmes libres et des femmes du peuple, qui ne sont ni liées à l'université, ni liées à un couvent quel que soit, les béguines en particulier, donc diffusent la pensée des mystiques rhénans dans le peuple où ces mystiques sont reconnus non pas comme des maîtres des écritures, c'est un titre qu'on réserve effectivement aux théologiens, mais maître de vie, les Brahmachter, titre qu'on révèle, qu'on donne à des hommes qui sont proches du peuple.
Alors Rémi Valiero, bon, je vous appelle comme cela, frère Rémi, puisque c'est votre nom d'auteur, hein, vous avez publié des livres. Et alors, on a découvert en 1992, donc c'est récent, des documents à Bruxelles de textes Granum Sinapis. Alors j'en parle parce que le Festival Musica à Strasbourg avait commandé à Pascal Dussapin une œuvre musicale, une œuvre vocale pour chœur mixte sur ce texte qui fut joué en 1998 à Musica donc. Et alors Pascal Dussapin avait repris l'intégralité du texte qui avait été joué dans un des temples de Strasbourg. Et alors, Pascal Dussapin, alors je fais cette digression, ce développement, il n'est pas seulement le compositeur venant régulièrement en Musica à Strasbourg, il est aussi un spécialiste de Flaubert. Et je vais vous dire pourquoi. Alors, Pascal Dussapin, il collectionne des manuscrits de Flaubert, mais Flaubert, qui avait écrit dans sa correspondance alors à Louise Collet en 1852, je cite de mémoire, enfin, avant qu'il n'entame son roman, Madame Bovary, « Je veux faire un livre sur rien ». Et Rémi Valero, vous avez écrit un livre sur les derniers jours de Maître Eckhart et vous lui avez donné comme titre « Réduit à rien ». Alors Flaubert disait précisément « Ce qui me semble beau, ce que je voudrais faire, c'est un livre sur rien, un livre sans attache extérieure qui se tiendrait de lui-même » par la force interne de son style. Alors, frère Rémi, on ne sait rien de la mort de Maître Eckhart, et avec ce rien, vous avez fait une œuvre mystique, ce qui est, disons, naturel pour un dominicain, mais aussi une vraie œuvre littéraire. Franchement, j'ai lu la grande partie de votre livre, j'ai vraiment beaucoup aimé comme un amateur de littérature. Vous avez une écriture d'une épure vraiment passionnante et vous avez donc inventé Alors Flaubert disait « Tout ce qu'on invente est vrai ». Vous avez inventé les derniers jours de ce grand théologien. Vous dites même que vous êtes le compagnon et le chroniqueur. Alors vous dites « De ce voyage au bout de la nuit ». Alors Céline et Flaubert convoqués au chevet du mysticisme, je trouve que c'est pas mal. Hein, je ne sais pas si vous sautez au plafond, là, mais en tout cas, c'est aussi celui de l'excommunication et de l'exil. Ça, c'est un sujet qui est tout à fait... contemporain, après le passage de Maître Eckhart à Strasbourg, il a été abandonné par tous, mais c'était quand même un homme libre. Vous le dites, c'est un homme libre. Est-ce que ce thème, donc, est un thème très actuel ?
La question de la liberté intérieure est de tous les temps, et elle a été particulièrement traitée avec Maître Eckhart. Elle ressurgit aujourd'hui, effectivement, pour des hommes et des femmes qui sont assommés par le quotidien, l'actualité, et liés par différentes réalités qui les empêchent d'être libres foncièrement et intérieurement. Et donc, la mystique rhénane, celle que prône Maître Eckhart, effectivement, nous invite à n'être retenus par rien. Ce petit rien qui peut être un obstacle sur le chemin de la découverte de Dieu tel qu'il est, non pas tel que j'imagine, tel que je le désire, tel que je le voudrais, mais tel qu'il est. Et dans ce versant théologique, l'homme apprend dans un versant moral à n'être retenu par rien, ni son amour propre, ni son désir d'être ou de paraître. Vous évoquiez Flaubert, lorsqu'il envisageait d'être promu à l'Académie française, reçoit la nouvelle par un ami, comme quoi il n'est pas élu. Et la grande phrase de Flaubert est « Ah, pourquoi vouloir être quelque chose alors que je suis quelqu'un ?» Cela est dit par Flaubert.
Oui.
Mais dans un monde où on veut à tout prix paraître et être quelque chose, être quelqu'un, fondamentalement, l'être libre que je suis au fond de moi-même à l'image et à la ressemblance de Dieu, est peut-être le chemin le plus sûr pour être un vivant et un homme qui offre le meilleur de lui-même, c'est-à-dire une générosité d'âme. Effectivement, vous évoquez un voyage au bout de la nuit avec Maître Eckhart qui subit un procès en inquisition pour des raisons qui ne sont pas bonnes en soi, puisque ce sont deux frères de son propre couvent qui l'ont dénoncé pour échapper à des questions donc de droit canonique en termes moral et ont déclenché un procès de type théologique à son égard. Et donc Maître Eckhart, qui était réduit à rien du jour au lendemain, du grand théologien qu'il était, à quelqu'un dont on dit que l'écriture est frelatée, est demeuré invivant, en se défendant avec force d'âme, mais aussi beaucoup d'humilité, et en s'abandonnant, et ça c'est le maître mot de Maître Eckhart, s'abandonner à Dieu, en dépit de tout ce qu'il peut traverser. Et donc là, on est du voyage au fond de la nuit, à plus exactement un voyage au fond de l'âme. Ce fond de l'âme où Maître Eckhart désigne effectivement cette étincelle que représente Dieu au fond du cœur de tout un chacun.
Mais chez Céline, ce titre veut dire que c'est un voyage au bout de l'horreur aussi. On est puceau de l'horreur comme de la volupté, écrit-il à un moment, là, Bardamu. C'est-à-dire que vous allez au fond de l'âme, mais c'est de l'âme par rapport à la terrible condition de l'homme qui trime pour manger et nourrir sa famille. C'est ça ?
Alors, c'est un des aspects, mais si vous voulez parler d'horreur, précédant Maître Eckhart, une béguine dont Maître Eckhart s'est inspiré s'appelait Marguerite Porret. Marguerite Porret a été accusée d'hérésie pour un ouvrage qu'elle a écrit elle-même, donc qui s'intitule « Le miroir des âmes simples et anéanties en Dieu ». Elle a été condamnée pour hétérodoxie, brûlée vive sur la place de Grève à Paris le 1er juin 1310.
Comme une sorcière.
Non, pas comme une sorcière, comme une hérétique.
Comme une hérétique.
La chasse aux sorcières est beaucoup plus tardive, elle est du 15e siècle. Nous
d'accord.
Ne sommes pas à cette époque-là.
Excuse-moi.
Et donc, Maître Eckhart, dans le sillage de cette Marguerite Porret, prêche pas différemment. Et lorsque lui-même est accusé d'hérésie, il a le souvenir de cette femme qui a été exécutée. Et là, Maître Eckhart, effectivement, est pris au plus profond de lui-même par la peur, certes, par le désarroi, certes, mais aussi par cette volonté de donner le meilleur de lui-même et surtout d'offrir aux hommes et aux femmes de son temps une liberté intérieure, et il va jusqu'au bout de son message.
Alors vous mettez en exergue, c'est le propre de la créature de faire quelque chose à partir de quelque chose, mais c'est le propre de Dieu de faire quelque chose à partir de rien. Alors, c'est fascinant, oui, hein, cette évidence, c'est une simplicité fascinante.
Fascinante, mais bon, qui ne s'invente pas en soi, puisque je ne reprends que la tradition du livre des Maccabées. Livre des Maccabées dans la Bible, où il est signifié que Dieu crée ex nihilo, à partir de rien. Et c'est sur la base de cette parole biblique du livre des Maccabées que toute une théologie, ne serait-ce qu'en mode chrétien, s'est construite, et dont est héritier Maître Eckhart. Et quand Maître Eckhart dit que Dieu crée à partir de rien, il veut que l'homme, effectivement, prépare un chemin au fond de lui-même où rien ne puisse faire obstacle à l'agir divin. Effectivement, si l'homme est dans le paraître, il va faire obstacle à Dieu tel que Dieu veut intervenir au fond de l'homme. Et donc, Maître Eckhart nous invite à aller au-delà de notre paraître, au-delà de ce que nous pouvons faire, voir nos bonnes volontés qui peuvent être parfois, à notre corps défendant, des créatrices. La volonté créatrice, elle est le propre de Dieu. Sommes-nous des êtres de volonté créatrice? On voit bien que dans notre propre volonté, nous sommes des créateurs. Mais s'abandonner à la volonté créatrice, ça, c'est un chemin de création et de participation à l'œuvre créatrice de Dieu.
Alors, j'en reviens alors à vos conférences, mais aussi donc à votre écriture. J'ai dit que j'avais été enthousiaste en lisant votre livre. Et alors, vous décrivez la mort de Maître Eckhart, dont on ne sait rien, et vous dites, par exemple, quand il tombe sur le plancher dans un fracas de dies irae. Ça, c'est sacrée phrase, là. C'est de la littérature.
La littérature dit souvent ce que ne peut dire l'histoire. La poésie, dit le poète Novalis, est ce qui touche au plus près du réel. Nous manquons effectivement d'informations sur cette mort de Maître Eckhart. Il a été se défendre auprès du pape en Avignon, faisant le chemin entre Cologne et Avignon en 1327. Et on perd sa trace. On ne sait pas s'il est arrivé à Avignon, s'il est mort avant, s'il est mort après être à Avignon. On ne sait absolument rien. Quand il m'a été demandé d'écrire ce livre, je ne voulais pas faire d'entorse à l'histoire, et donc je reprends très scrupuleusement toutes les pièces historiques du dossier. Mais effectivement, pour décrire une âme humaine, l'histoire ne nous laisse pas de traces de ce que représente une âme humaine. Et pour décrire cette âme humaine, j'essaye de rentrer effectivement dans le désarroi d'un personnage qui, du jour au lendemain, reçoit effectivement l'arrêt fracassant d'être désigné comme hérétique ou hétérodoxe et qui se confronte brutalement à la réalité. Et quand il tombe sur le plancher, quand on peut tomber sur le plancher, peut résonner au fond de soi-même un dies irae.
Voilà. Et alors, vous racontez même le travail du fossoyeur et du linceul qui se déchire dans les ronces. Alors là, on y croit, là.
on y croit, effectivement, et sachant que Maître Eckhart est très vraisemblablement mort dans un prieuré, non pas dominicain, parce qu'on aurait eu des traces historiques de sa mort dans un obituaire de couvent dominicain. Il est vraisemblablement décédé dans un prieuré bénédictin, cistercien, voire de frère chanoine de Saint-Augustin. Dans l'un ou l'autre cas, s'ils sont des cisterciens ou des trappistes, on enterre les morts non pas dans un cercueil, mais dans un drap, comme cela se fait encore aujourd'hui. Et donc on peut imaginer cette scène, effectivement, de ce drap, ce linceul descendu dans la fosse à quelques périodes de l'année où la terre est difficile à creuser. Et on peut effectivement toucher du doigt ce que représentent ces derniers instants ou post-instants de la vie de Maître Eckhart.
Oui, on a évoqué avant Madame Bovary, c'est le rire d'Emma lorsqu'elle entend le chant du mendiant juste avant d'expirer. Là, c'est aussi une séquence qui est très prenante et tout. Alors, les sermons des mystiques rhénans sont des voyages aux confins du temps et de l'éternité. Vous les avez étudiés. Alors, frère Rémy, puis-je vous demander pourquoi vous êtes dominicain? votre vocation religieuse, mais aussi ce choix précis. Pourquoi vous êtes dominicain et pas... Alors, je suis un néophyte, pourquoi pas jésuite ou même évêque?
La devise de l'ordre dominicain, c'est contempler et transmettre ce qu'on a contemplé. Contempler et transmettre ce qu'on a contemplé. Et effectivement, par formation dans le monde des musées, j'ai passé une bonne partie de ma vie à contempler des œuvres d'art, des tableaux, des sculptures, travaillant même à Jérusalem à ce sujet-là sur les collections archéologiques. Et
vous auriez pu faire l'école des Chartres, par exemple.
En contemplant effectivement ces œuvres d'art, je m'aperçois qu'il y a une lumière au fond d'elles qu'on a envie de transmettre d'une manière ou d'une autre, pas seulement en termes d'histoire de l'art, mais en termes d'histoire de la pensée, ou peut-être même en termes théologiques, quand ces œuvres d'art se rapportent aux questions de la foi, que ce soit les arts du judaïsme, du christianisme ou de l'islam par ailleurs.
Et donc c'était l'ordre des dominicains qui vous permettait d'approfondir cette recherche?
Actuellement, dans l'ordre dominicain, effectivement, je ne cesse de contempler et de transmettre autant qu'il m'est possible cette contemplation à travers l'enseignement, à travers des sessions, des prédications, voire à travers des ouvrages comme ceux que vous citez aujourd'hui, notamment cet ouvrage sur les derniers jours de Maître Eckhart.
Alors, vos livres, on les trouve en bibliothèque et on les trouve aussi en vente, hein, sur... Comment dire ça prosaïquement? Est-ce que ça marche bien? Est-ce que c'est juste des spécialistes qui les achètent? Ou est-ce que c'est un peu... Bon, vous n'êtes pas Georges Duby, mais est-ce que vous avez du succès?
Je ne sais pas ce que veut dire aujourd'hui le succès.
Bon, est-ce que vous tirez à plus que 200 exemplaires?
Quand on met un sample de 135 exemplaires vendus sur un ouvrage, je me fie sur la qualité de l'ouvrage.
Oui.
Il ne faut pas confondre communication et transmission.
Bien sûr.
Et donc, je ne sais pas ce que c'est un succès. J'essaie de donner ce que j'ai à donner. Et j'essaie de donner mon cœur, comme Maître Eckhart a donné son cœur, comme Marguerite Porret, cette pauvre béguine du XIVe siècle, a donné son cœur.
Mais il a quand même été obligé de se renier, Maître Eckhart.
Il s'est amendé, mais néanmoins, sa parole, siècle après siècle, a porté son fruit, au-delà, effectivement, de la bulle In agro Dominico du pape Jean XXII, puisque Maître Eckhart, grâce à Jean Toller, n'a cessé d'être lu par des hommes et des femmes du XVe, XVIe siècle. Martin Luther a été éditeur des Mystiques Rhénans en 1516.
Oui.
Jean-Sébastien Bach, le grand musicien, était lecteur des sermons de Jean Toller et donc de la pensée de Maître Eckhart. J'en peux citer encore davantage, notamment une jeune juive du camp de Westerbork, le Drancy des Pays-Bas, en 1942, lit les sermons de Maître Eckhart, ce qui lui fait écrire dans ses recueils, recueil retrouvé post-mortem, puisque cette pauvre jeune femme, en l'occurrence, a été assassinée dans le camp de Auschwitz-Birkenau en 1943. Elle dit « Dieu, dans la situation où nous sommes, tu ne peux absolument rien faire pour nous, mais je vais tout faire pour que tu ne t'éteignes pas en moi. » Eh bien, cette parole de Étienne Soum est en fait, sans être littéralement empruntée à Maître Eckhart, directement inspirée de la pensée de Maître Eckhart.
Ah oui, eh ben c'est une belle, comment dire, une belle référence, une belle leçon. Mais alors, juste pour conclure notre émission, quel est le rôle de la prière en 2025? Quel est ce rôle? Pourquoi prier? Alors, je suis peut-être insolent en vous posant la question comme cela, mais voilà. Pourquoi prier, quelle que soit la religion, même à la limite?
Qu'est-ce que la prière si ce n'est une présence à Dieu qui demande d'être une présence à soi et qui suppose d'être une présence à autrui? Je voudrais dire que la prière est d'abord une présence. Combien de nous sommes-nous réellement présents à nous-mêmes et à défaut présents à autrui, alors a fortiori à Dieu? La prière, c'est être profondément présent à celui qui est essentiellement, à savoir Dieu, présent à nous-mêmes plus que nous ne saurions être présents à lui. Ça, c'est un chemin de prière et c'est exigeant, mais ça apporte la vie parce qu'être présent à quelqu'un, effectivement, n'est pas sans incidence sur nos vies.
Merci Rémi Valero pour ce travail spirituel au sein de notre émission. C'était l'épisode numéro 119, Les mystiques rhénans, Rémy Valero. Merci pour ce moment sur le chemin d'une recherche spirituelle dans Vous l'avez bien connu sur Radio Judaïka Strasbourg. Alors, la semaine prochaine, nous nous préparerons à partir en vacances et disons que cela sera notre dernier épisode avant la grille de programme d'été. Je recevrai Dimae Jianjong Bin Li, une artiste strasbourgeoise qui nous donnera envie de voyager en Corée. Alors, nos auditeurs savent bien que notre émission n'est surtout pas touristique, hein, avec de simples ambitions sur la fascination du temps perdu et des oublis du hasard, du plaisir de la littérature et de la philosophie et des arts plastiques. Et par exemple, Dimae Jianjong Bin Li réalise tout un travail artistique à partir. Alors, écoutez bien. Des étiquettes, des oreillers où elle dort quand elle va à l'hôtel. Alors, c'est une œuvre en série, avec une contrainte peut-être oulipienne. Voilà pour rêver pendant les vacances. Vous l'avez bien connu tous les mardis à 11h30 et le dimanche à midi, à la technique Thomas Marinelli. Et mon nom, c'est Ambroise Perrin.